Pour éclairer la prédication, je vais d'abord vous lire le psaume 82, qui est un petit peu compliqué, il n'est pas très clair, mais je vous le lis quand même. Dieu s'est dressé dans l'assemblée des dieux et il leur dit « Jusqu'à quand jugerez-vous de travers en favorisant les coupables ?» Soyez des juges pour le faible et l'orphelin, rendez justice au malheureux et à l'indigent, libérez le pauvre et le faible, délivrez-les de la main des coupables. Mais ces juges-là ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils se meuvent dans les ténèbres et toutes les assises de la terre sont ébranlées. Je le déclare, dit Dieu, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Pourtant, vous mourrez comme les hommes, vous tomberez tout comme les princes. Lève-toi, Dieu, sois le juge de la terre, car tu as toutes les nations en héritage. Et puis le texte qui sera l'objet de notre prédication, qui est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, à partir du verset 22. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Au temple, Jésus allait et venait sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens ? Si tu es le Christ, « dis-le ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous en ai parlé, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage. Mais vous, vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais, et elles viennent à ma suite, et moi je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes dans l'unité. » Les Juifs à nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus reprit, « Je vous ai fait voir tant de belles œuvres qui venait du Père. Pour laquelle de ses œuvres voulez-vous me lapider ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » C'est un rappel du psaume que je viens de vous lire. « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Il arrive donc à la loi d'appeler Dieu ceux auxquels la parole de Dieu fut adressée. Or, nul ne peut abolir l'Écriture. » Alors nous allons chanter le cantique 258, les strophes 1, 2 et 3. Donc, nous venons de lire un dialogue intéressant entre les Juifs et Jésus, qui porte, pour une fois, sur le statut de Jésus. Qui est-il vraiment ? Comment faut-il le considérer ? Est-il le Messie ? Se fait-il Dieu, comme les Juifs semblent l'accuser ? Et qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, exactement, se faire Dieu ? Nous sommes dans l'évangile de Jean, celui pour lequel la proximité entre Dieu et Jésus est la plus affirmée, nous pouvons même dire l'intimité entre Dieu et Jésus. Et dans ce que nous venons de lire, Jésus dit au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes dans l'unité. » Et plus loin, Jésus dit que Dieu est en lui et que lui est en Dieu. Mais concernant son statut, il dit seulement, un peu au-delà de ce que je vous ai lu, qu'il est fils de Dieu, ce qui, en Israël, est une appellation assez courante. Tout bon juif est fils de Dieu, dans le sens où il est sous la protection de Dieu. Et par exemple, dans les fameuses béatitudes de Matthieu, vous vous rappelez cette phrase, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc il n'y a pas que Jésus qui est fils de Dieu. La vraie question posée par les Juifs est donc celle du Christ, le Messie en hébreu. Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Et il semble donc que la question soit en discussion depuis longtemps, sans trouver de réponse bien claire. Jusque à quand vas-tu nous tenir en suspens ? Demandent les Juifs. Ce qui montre bien que Jésus n'a pas été vraiment clair sur ce point, et ici encore, il ne l'est pas davantage. Eipon humine, dit-il, j'ai dit. Je vous ai dit, je vous en ai déjà parlé. Et pas comme traduisent la plupart des textes, je vous l'ai dit. C'est pas ça. Eipon humin, il n'y a que deux mots, j'ai dit. Mais on ne sait pas ce qu'il a dit. Je vous en ai déjà parlé. Mais vous ne voulez pas comprendre, dit-il. Et effectivement, la difficulté qu'ont les Juifs à comprendre vient de ce que d'un côté, le Messie est attendu depuis des siècles pour sauver le peuple de toutes les souffrances dues aux occupations perses, grecques et romaines. Et d'un autre côté, Jésus annonce bien ce royaume de Dieu tant attendu, mais à l'évidence, il ne vient pas. Et les Juifs ne voient pas vraiment en quoi la présence et le comportement de Jésus pourrait faire entrer Israël dans cette ère nouvelle de paix et de bonheur pour tout le peuple, comme devait l'apporter le Messie. Donc, ils ne savent plus à quoi s'en tenir. Et il est temps de poser vraiment la question à Jésus lui-même et de lui demander une réponse claire et franche. Es-tu le Christ ? Es-tu le Messie ? Oui ou non ? En réponse, Jésus témoigne de ses œuvres, de ses engagements, de la vie qu'il mène. « Je vous ai fait voir tant de belles œuvres qui venaient du Père, » dit-il. Jésus recentre la question. L'important n'est pas de discuter de son statut. Il n'est pas de savoir si Jésus est le Christ attendu par Israël. Il y a d'ailleurs tellement de messies différents dans la pensée juive à cette époque que on ne sait pas très bien duquel il s'agit. Mais pour Jésus, l'important est de reconnaître que ce qu'il a fait pour tous ces malheureux rencontrés sur sa route mérite que les Juifs le considèrent, qu'ils croient en lui, qu'ils croient que son message doit être entendu et mis en pratique pour que le monde aille mieux. Nous voyons donc que Jésus ne se perd pas en débat théologique pour expliquer s'il est le Christ ou pas. Cette question est une question pour les Juifs. Et elle ne l'intéresse pas vraiment. Mais il parle de son travail, de sa relation au prochain, de tout ce qu'il fait au nom de Dieu. « Les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage, » dit-il. « Ce qui compte, c'est l'engagement. » Il ne faut pas me considérer parce que je serai d'une nature particulière, mais à cause de tout ce que vous avez vu et entendu de ma part, à cause de tous mes efforts pour essayer de remplacer l'égoïsme des hommes par la solidarité. Mais eux veulent le lapider, parce que, disent-ils, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Alors effectivement, pour un juif, se prendre pour Dieu est un véritable blasphème. C'est une atteinte à la majesté de Dieu, à son unicité, à sa grandeur, qui est très au-dessus de celle des hommes. D'ailleurs, dans les évangiles, Jésus ne s'est jamais dit Dieu. Ce sont les autres, de son temps et après son temps, qui le perçoivent comme tel. Alors justement, pour répliquer, Jésus fait appel à ce psaume 82, un peu obscur, notamment parce qu'il contient la trace d'un certain polythéisme, avec le Dieu suprême et puis des autres dieux. Donc, dans ce psaume, Dieu domine l'assemblée des dieux, qui sont des juges et qui jugent mal, car il ne s'occupe pas assez des pauvres, des malheureux et des indigents, de sorte qu'ils mourront comme des hommes. Alors ici, dans ce psaume, ce ne sont pas des hommes qui deviennent des dieux, mais des dieux qui meurent comme des hommes. Nous sommes introduits par ce psaume, assez curieux, dans une limite un peu floue entre ce qui est divin et ce qui est humain. Et c'est cette limite floue qu'exploite Jésus en répondant, utilisant une certaine exégèse libérale juive de son époque, qui tendait à penser que les fils d'Israël portent en eux quelque chose de la divinité. Et d'ailleurs, Jésus enfonce le clou, puisqu'il rajoute, il arrive à la loi d'appeler Dieu ceux auxquels la parole de Dieu fut adressée. Je ne sais pas où c'est dans la loi, mais enfin, c'est l'évangile de Jean qui dit ça. Autrement dit, la parole de Dieu, bien entendue et bien comprise, transforme celui à qui elle s'adresse au point de le diviniser lui-même. Vous vous rappelez le prologue de l'évangile de Jean qui nous explique que Dieu est la parole, le logos, on pourrait dire la parole raisonnable. Et là, Jésus nous dit que cette parole, pénétrant chez les hommes et les transformant, la divinise. J'oserais dire que la divinité est contagieuse. Mais cette idée de l'homme divinisé a été beaucoup développée dans les églises d'Orient, les églises orientales des premiers siècles. Origène disait déjà « Et l'homme tout entier devient Dieu. » Et un peu plus tard, Basile de Césarée écrivait « L'homme est un animal appelé à devenir Dieu. » Nous voyons donc l'idée de Jésus qui a été reprise ensuite par certains pères de l'Église Nous voyons donc que cette idée a été reprise par certains pères de l'Église qui, de toute façon, savaient bien que le concept de Dieu est difficile à cerner. Alors, cette vision de l'homme, partie prenante de Dieu, est très innovante par rapport à la conception traditionnelle du judaïsme, suivant laquelle Dieu est Dieu dans le ciel, très au-dessus de la terre et très au-dessus des humains. Mais comme l'explique Jésus, l'important n'est pas là, et pour la deuxième fois, il ramène le débat sur les œuvres de Dieu qu'il accomplit. Œuvres, comme dit le psaume, pour les déshérités de la terre, pour les souffrants de ce monde. Et si ces œuvres de Dieu n'existent plus, si Jésus ne peut plus les montrer, on ne sait plus très bien comment connaître Dieu, parce que nous ne le connaissons pas directement, mais à travers ses œuvres, à travers ses bienfaits. Comme dit d'ailleurs toute la Bible hébraïque, je cite au hasard le psaume 139, « Tes œuvres sont prodigieuses, oui, je les connais bien ». Évidemment, cette idée de l'homme divinisé nous amène à la question, mais qu'est-ce que Dieu ? Jésus n'y répond pas vraiment, et moi non plus, je ne vais pas y répondre. Mais il devait penser, comme plus tard Albert Schweitzer le dira très clairement, Dieu ne se raconte pas, il se pratique. Pour Schweitzer, Dieu, c'était ce besoin, cette force intérieure qui nous forçait à œuvrer pour sauver l'homme. Pour le grand théologien Paul Tillich, Dieu est transcendant, mais d'une transcendance qui se situe à l'intérieur de l'homme. Vous voyez que c'est une parfaite contradiction. Parce que par définition, la transcendance vient d'ailleurs. Mais justement, Tillich explique bien que notre être même, tout notre être vient d'ailleurs. Il vient de Dieu. De sorte que, pour Tillich, Dieu est à la fois dans la force et l'immensité du ciel, et dans l'intimité la plus profonde de chaque personne. Et je crois qu'il est difficile de dire le mystère de Dieu autrement. Jésus était évidemment plus dans l'intimité de Dieu que nous autres. Il était peut-être plus divinisé que nous autres. Mais il se défend bien dans ce dialogue d'être le seul à se faire Dieu. Je voudrais dire en conclusion que, entre les Juifs et Jésus, existait un parfait malentendu qui traversera ensuite toute l'Église et la traverse encore aujourd'hui. Jésus dit bien, « Ne vous intéressez pas à ce que je suis, mais à ce que je fais. Allez donc voir mes œuvres. » Or, les églises se sont toujours beaucoup plus intéressées à ce qu'elles pensaient de ce que Jésus était. Le Messie, le Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Ressuscité, le Rédempteur, le Grand Prêtre. Il suffit d'ailleurs d'aller lire nos cantiques. L'important, c'est ce que Jésus était et pas ce qu'il a fait. Mais Jésus nous dit, regardez plutôt les œuvres de Dieu auxquelles je me suis attaché et pour lesquelles je me suis battu. Et ce sont elles, dit-il, qui donnent la vie éternelle. Amen.